Cours de métaphysique sur la personne par le père Marie-Dominique Philippe, le 20 mars 84, Frimont.
Donc nous arrivons un peu au terme de cette topique, heureusement, n'est-ce pas ? Mais je crois que c'est quand même important, c'était utile. Et c'est quelque chose qu'on devrait, si on faisait l'histoire de la philosophie occidentale, ce serait peut-être. Moi, je l'avais pris par le point de vue du problème de Dieu, mais il y avait un autre problème, c'est le problème de la personne. Et ça m'impressionne moi-même quand on reprend comme ça, de voir que là, on est en face d'une crête. C'est vrai, la crête immanente de la philosophie occidentale, c'est la personne. La crête transcendante, c'est le mystère de Dieu. Il y a deux mystères qui se tiennent, et je crois ça très important pour nous, parce que ça nous fait comprendre comment le problème de l'existence de l'être premier, aujourd'hui, ne doit plus se poser par rapport à l'univers, mais par rapport à la personne. C'est là où je crois qu'il y a tout un changement de perspective comparativement à la philosophie aristotélicienne. C'est dans le prolongement, Aristote a posé les bases, mais au fond, il y a quelque chose de particulier. Le problème de la personne, c'est là où on dira philosophie chrétienne, vous comprenez ? En réalité, je ne dis pas philosophie chrétienne, je dirais métaphysique qui demeure et éthique chrétienne. Éthique chrétienne, nous devons le maintenir. Il y a une éthique chrétienne. Et comme le problème de la personne ne peut pas se poser uniquement métaphysique, mais assume l'éthique, je comprends comment le problème de la personne est comme la clé entre le problème traditionnel de la philosophie et le problème de la révélation chrétienne. Et c'est pour ça que là, nous avons vraiment deux sommets de crête, deux sommets, deux pôles d'attraction, si vous voulez, deux manières de portant sur le développement de la philosophie occidentale, le problème de la personne qui demeure immanent à toute la philosophie, puisque nous avons une expérience de la personne humaine, l'hécastone d'Aristote, le Dasein de Heidegger, c'est quand même très curieux. Là, on retrouve, si vous voulez, les deux aspects qui se tiennent. Parce que le Dasein de Heidegger, c'est vraiment le problème de la personne. Et les questions d'Aristote, c'est la personne, mais ce n'est pas dit. C'est encore très, très enveloppé, ce qu'est chacun, et ce que chacun dans son individualité est. Or, l'individualité, quand il s'agit de l'homme, atteint la personne. L'individualité touche un sommet par la personne. L'individualité chez l'animal ne touche pas un sommet. Un chien n'est pas un sommet, tandis qu'un homme est un sommet. Oui, et je vous ai déjà dit, quand il y a eu cette exposition sur l'évolution à Paris, cette chose très étonnante, qui était très significative, beaucoup plus qu'on le pensait, que ça se terminait, après avoir vu tous les passages, ça se terminait par une glace. Et le Parisien, qui est évidemment au terme de l'évolution, n'est-ce pas, se regardait. Et alors on avait la personne. Le terme de l'évolution, c'était ça. Et c'est vrai que la personne représente un sommet. Alors, le sommet immanent de la philosophie, c'est la personne. Et le sommet transcendant de la philosophie, c'est le problème de Dieu. La personne, tous les philosophes en parlent. Personne ne nie la personne. C'est absolument impossible. Parce que c'est quelque chose qui est présent, immanent dans tout le développement de la philosophie. Tandis que le dépassement de la personne, la méta-personne, si vous voulez, qui est la découverte de l'être premier, alors là, on sent très bien qu'il y a un partage qui se fait. De sorte que, si on veut regarder le développement de la philosophie occidentale, reprendre, si vous voulez, ce que le père Maréchal avait fait au point de départ de la métaphysique, Vous avez dit au point de départ, c'est jamais très sûr, parce que le point de départ se détermine au terme, comme toujours une introduction se fait au terme. Quand on fait une introduction au point de départ, on s'aperçoit que c'est jamais ça qu'il faut faire. L'introduction se fait au terme. C'est comme les fondements, ça se refait quand on a touché le sommet. Alors on est obligé de reprendre les fondements. Parce que ça se fait au terme. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est très curieux. Là, il y a un processus très humain, je crois, du premier semeur génétique et le premier semeur de perfection. Et au fond, ça se retrouve tout le temps. Alors, on ne peut pas faire l'histoire de la philosophie occidentale en voyant au point de départ de la métaphysique. Mais on pourrait faire l'histoire de la philosophie occidentale par le problème de la transcendance de l'être premier et le problème qui nous y conduit, la personne humaine. Alors, selon la conception que vous avez de la personne humaine, vous vous ouvrez à Dieu, à l'être premier. Et selon la conception que vous avez de la personne humaine, vous vous fermez. Alors, vous comprenez l'Apocalypse 666, hein. La bête a un chiffre d'homme. Et la bête, c'est justement l'immanence. On reste dans l'immanence. Et l'immanence ne peut être considérée comme un absolu que dans l'homme. Alors je crois que là, il y aurait quelque chose de très important et intéressant à faire. Il y aurait une grande topique historique du développement de notre philosophie occidentale par le point de vue de la personne. Ici, ce serait très intéressant comme histoire de la pensée occidentale. Et par là, l'ouverture au problème de l'être premier. Alors, je reprends un peu ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire je ne reprends pas Maritain, mais je prends Geffray. Parce que comme c'est un confrère, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui a pris des orientations particulières. Alors, c'est intéressant de voir le problème de la personne chez le père Geffray. Dans son étude sur la structure de la personne, c'est une petite étude, facile à lire et difficile à comprendre, qui est intéressante pour voir la manière dont le père Geffray conçoit la personne. Le père Geffray interprète ainsi les affirmations de Jacques Maritain. Maritain serait le premier à le reconnaître, le mot « conflit » est tout à fait impropre. Je vous l'avais dit la dernière fois. Il ne peut pas y avoir un conflit entre la nature et la personne. Impossible. Mais il cherche par là à exprimer l'affleurement à la conscience d'une non-coïncidence ontologique entre personne et nature. Je crois que c'est juste que ce que je ferais fait, c'est que de fait, si on fait la topique générale de la personne au niveau de la philosophie occidentale, le problème revient toujours nature, personne. Toujours. Alors, la nature. Si je ne vois que la nature, je reste dans l'immanence. La finalité du chien, c'est d'engendrer un chien. Si je ne prends que l'individu, les castors, au genre animal, de l'homme, je reste dans l'immanence. La personne va me montrer le problème de la transcendance. La personne est ouverte à la transcendance. Elle réclame la transcendance. Donc c'est bien par le problème de la personne humaine, vous voyez, qui assume la nature. Pardon, c'est pas tout à fait ça qu'il faut mettre. Il faut mettre ceci. C'est le père Geffray qui m'a fait deviner. Le conflit, c'est entre esprit et nature. C'est pas entre personne et nature, vous voyez. Le conflit véritable. Mais c'est très intéressant de voir ça. Vous voyez, on gauchit la chose quand on met personne et nature. Parce que le conflit, c'est entre esprit et nature. C'est l'esprit qui transcende. Or, l'esprit n'est parfaitement lui-même que quand il rencontre ce qui est du point de vue de l'être. C'est là où vous comprenez l'importance du regard de la philosophie première, qui seul permet ce dépassement. Et nous avons l'unité des deux, esprit et nature, dans l'éthique. Parce que l'éthique donne le sens de la finalité. En réalité, le conflit esprit et nature ne peut être dépassé que par la finalité. Si vous ne voyez plus la finalité, vous demeurez dans le conflit. Un conflit analogue entre maître et esclave. Vous voyez, c'est curieux qu'on retrouve exactement la même chose. Aristote fait cette analogie entre l'âme spirituelle, l'esprit et le corps. La nature, c'est le corps. Vous faites partie de la nature à cause du corps. Et ça, l'esprit, c'est l'âme spirituelle. Alors, Aristote, vous savez, quand il prend le dialogue entre le maître et l'esclave, fait l'analogie entre l'âme et le corps. Très, très curieux. Donc, la dialectique hegelienne entre le maître et l'esclave va se retrouver à l'intérieur de la personne comme le conflit entre l'esprit et le corps. Entre l'esprit et la nature. Et le conflit existe et ne peut pas être dépassé dès que vous mettez entre parenthèses la finalité. Si vous mettez entre parenthèses la finalité, vous êtes en face du conflit, parce que le conditionnement de l'esprit et le conditionnement de la nature s'opposent exactement, analogiquement, comme celui du maître et de l'esclave. Oui. C'est intéressant parce que nous retrouvons là quand même quelque chose qui est une lame de fond, n'est-ce pas ? Le conflit maître et esclave au point de vue politique, c'est capital. Eh bien, au point de vue plus profond, au point de vue personne, le conflit esprit et nature, le conflit entre âme et corps, est un conflit dans la mesure où vous ne voyez plus la finalité. Dans la mesure où vous comprenez la finalité, vous comprenez qu'il y a un dépassement entre le point de vue de l'âme spirituelle et le corps par le point de vue de la finalité. Finalité qui est amitié, contemplation. Vous voyez, ça résume bien, je crois, et ça nous aide à comprendre quelque chose qui est quand même très, très actuel, qui est au cœur de toute la philosophie contemporaine. Vous voyez, c'est dès qu'on perd le sens de la finalité, on ne vit plus que dans une philosophie de conflit, une philosophie du drame, une philosophie dialectique. Et il n'y a plus facilité de s'en tirer. Là, le dépassement, c'est vraiment un point de vue. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien, mais ça me semble important, vous allez voir. Hein. Donc, mais il cherche par là à exprimer l'affleurement à la conscience d'une non-coïncidence ontologique entre personne et nature. Alors, une non-coïncidence ontologique entre personne et nature, je dirais entre esprit et nature. C'était le problème d'Aristote dans le De Anima, vous voyez. Depuis le De Anima, c'est le même problème. Quand Aristote se demande si le nous, la grande question du De Anima, Aristote se demande si le nous est fusis. Ça t'a posé le problème. Et c'est le même problème depuis Aristote. Aristote ne résout pas le problème dans le De Anima, il ne peut pas le résoudre. Il résout le problème dans l'éthique. Et c'est dans l'éthique où justement on a le problème de la finalité humaine qu'on résout le conflit apparent entre le nous et la phusis. Et ça montre que de fait, ce problème est toujours le même et en même temps il est posé selon des variantes différentes. Et alors les modernes le posent au nom de conscience. Et dès que vous pouvez au nom de la conscience, vous vous coupez de la finalité. Et alors par le fait même, vous tombez dans un point de vue de conflit. La nature, comme structure constitutive, est quelque chose de reçu. Et en ce sens, elle s'impose à nous. Donc, elle est quelque chose de reçu. Et en ce sens, elle s'impose à nous. Au contraire, l'activité immatérielle de la personne, comme sujet connaissant. Vous voyez, l'activité immatérielle de la personne, c'est bien le point de vue de la finalité. L'activité immatérielle de la personne comme sujet connaissant et aimant est une création originale de chaque personne, un fruit qui ne procède que d'elle. Le père Geffray ne donne pas la solution par le point de vue de la finalité, mais par la structure. Alors, pas de solution du côté de la structure. La structure de la nature et la structure de l'esprit ne peuvent pas être en harmonie. C'est ça qui est très curieux. Déjà, la structure du corps et la structure du vivant sont très différentes. Et la structure du corps et la structure de l'esprit ne sont pas en, voyez, quand je dis ne sont pas en harmonie, c'est-à-dire l'unité ne peut pas se faire à ce niveau-là. L'unité est au niveau de l'être et au niveau de la finalité. Au contraire, l'activité immatérielle de la personne comme sujet connaissant et aimant est une création originale. De chaque personne, un fruit qui ne procède que d'elle. Et la personne voudrait, si cela était possible, que l'affranchissement dont témoignent ses opérations spirituelles soit la condition même de son existence tout entière. Or, en fait, la personne doit compter avec les limitations que lui impose le corps, par son esprit même. Elle dépend d'objets et de mesures autres qu'elle-même. Enfin, plus profondément, sa nature est déterminée à un autre effet qu'elle-même, même lorsqu'il s'agit de cette surexistence illimitée de la connaissance et de l'amour. Ainsi, quand nous disons avec M. Maritain que la personne demande à se déterminer elle-même, dans son être même, elle ne demande pas de se déterminer dans son être même, je regrette. Au sens rigoureux. C'est déjà, si vous dites ça, vous mettez ontologiquement le conflit. Vous dites que la personne se détermine elle-même. C'est égal, ça. Pas vrai. La personne de se déter... elle se détermine dans sa finalité. Elle a une possibilité de se déterminer dans la finalité, mais pas dans son être. Mon être, je ne me détermine pas. J'essaie progressivement de reconnaître ce qu'est mon être. Et je le reconnais. Et puis je reconnais celui des autres. Et je vois que celui des autres est mieux que le mien. Alors d'une sainte jalousie, métaphysique, ontologique. Je reconnais mes limites, je reconnais mon être. Et je sais que j'ai la capacité de me déterminer au point de vue de la finalité. Donc le « c'est » me verrait du côté de la finalité, mais pas du côté de l'être. Ainsi, quand nous disons avec M. Maritain que la personne demande à se déterminer elle-même dans son être même, il faut souligner ça, parce que c'est le, voyez bien, c'est la vieille idée de causa sui, de Descartes, la vieille idée de causa sui, Descartes. Dieu est cause lui-même, la personne est cause elle-même. C'est toujours la même idée. Comme si l'esprit pouvait être cause de son être, donc autocréateur de lui-même. Il se détermine lui-même. Donc la personne demande à se déterminer elle-même dans son être même et par là cherche en quelque sorte à dépasser sa condition de créature. La finalité ne nous fait pas dépasser notre condition de créature. On ne peut pas dépasser la condition de créature. Dépasser la condition de créature, les Grecs le disaient toujours, c'est l'hubris. C'est l'orgueil. L'orgueil consiste à vouloir dépasser sa condition de créature. Et ne pas accepter sa condition de créature, c'est un manque de réalisme. C'est se être cause de soi, comme si on était cause de soi. C'est très important, c'est très bien dit. Hein. C'est dit avec clarté. C'est très bien dit pour qu'on voit exactement où il y a l'erreur. Confusion. Entre la détermination à l'égard de la finalité avec le point de vue de l'être. Donc, confusion entre l'ontologique et l'éthique. Confusion entre les deux. La finalité, je veux dire, la philosophie première disparaissant, il reste plus l'éthique. Du côté de l'éthique, c'est le sémavéré. Et le sémavéré au sens le plus fort, c'est se déterminer vis-à-vis de sa finalité. La volonté est domina sui. Hein? Pas causa sui, mais domina sui. Mettez en parallèle les deux expressions. Hein? L'expression de saint Thomas, c'est domina sui. C'est très beau, du reste. La volonté est domina sui. Elle est domina sui, en ce sens qu'elle se détermine par rapport à cette finalité. Mais elle n'est pas causa sui. Tandis qu'on voudrait en faire causa sui. Et ça, c'est la confusion entre le point de vue éthique et le point de vue de la philosophie première. C'est, je crois, la confusion la plus terrible de notre monde moderne. Et c'est une confusion qui provient de la phénoménologie. Mais c'est l'ontologisme ou celle-là. C'est une confusion très très constante, c'est la confusion de l'ontologisme. Dans l'ontologie, c'est ça, c'est on confond l'intelligibilité et le réel, on confond donc le domina sui et le causa sui. Ainsi, quand nous disons avec M. Maritain que la personne demande à se déterminer elle-même dans son être même, et par là cherche en quelque sorte à dépasser sa condition de créature, nous ne considérons plus la personne comme une nature enfermée dans un genre et dans une espèce, mais comme une perfection transcendantale dans sa nature métaphysique. Et comme une perfection transcendantale dans sa nature métaphysique. Non, ça, c'est très important. Le père Geffray, cherchant à préciser sa pensée, souligne, oui, cherchant à préciser sa pensée, il se sert de Maritain, c'est intéressant, c'est la matière sur laquelle il va préciser sa pensée, je crois, parce que ça a été comme ça. Le père Geffray, donc, cherchant à préciser sa pensée, souligne que si le degré d'une nature inférieure ne désire pas le degré propre d'une nature supérieure. Au niveau nature, l'immanence. Vous voyez, il y a une hiérarchie dans la nature. Il y a du plus et du moins. Le chien ne cherche pas à être cheval. Il ne cherche pas. Il est déterminé dans l'immanence. Donc, si le degré d'une nature inférieure ne désire pas le degré perçu d'une nature supérieure, cependant, lorsqu'il s'agit des personnes transcendantales, c'est le mot très équivoque, vous voyez, de personne transcendantale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je crois que le transcendantal là est pris d'une manière assez séquentielle, et non plus d'une manière thomiste. On voit. Cependant, lorsqu'il s'agit de perfection transcendantale, il en va autrement, car des perfections transcendantales, comme l'intelligence, l'amour, la personnalité, ne s'anéantissent pas en passant à un degré supérieur. Le propre de la personne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'ouverture à la transcendance. Autrement dit, le propre de l'esprit, c'est d'être au-delà de l'immanence de la nature. La nature met dans l'immanence, et telle en réalité spécifique de telle espèce demeure en immanence. Tandis que l'esprit transcende. L'esprit va au-delà et dépasse. Et ne se détruit pas. L'homme, en rejoignant Dieu, devient Dieu tout en restant homme. Tandis qu'une nature inférieure, si elle se transformait dans une nature supérieure, perdrait sa propre nature. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est que lorsqu'il s'agit de quelque chose, c'est ça qu'il appelle une perfection transcendantale. La perfection transcendantale, c'est la perfection qui peut cumuler, si vous voulez, qui peut passer d'un ordre à un autre ordre. Donc, de l'ordre de la créature, l'ordre du créateur. Au contraire, donc, car des perfections transcendantales, comme l'intelligence, l'amour, la personnalité, ne s'anéantissent pas en passant à un degré supérieur. Au contraire, plus on monte dans les degrés des êtres, plus ces perfections sont conformes à leur ratio. La personne est une perfection transcendantale dont le premier analogué se retrouve en Dieu. Donc la personne est une perfection transcendantale dont le premier analogué se retrouve en Dieu. Et le père Geffray n'hésite pas à affirmer: il y a en moi un désir naturel de la personne à atteindre la plénitude de sa perfection, à savoir la parfaite indépendance. Donc il y a en moi un désir naturel. Alors c'est ça qui est très difficile, parce que vous mettez un désir naturel dans l'esprit, et vous avez dit précédemment que ce n'était plus la nature. Ça, c'est joli. Il y a en moi un désir naturel, je crois que vous ne pourrez plus le dire. Parce que si vous faites une coupure au niveau de la nature et de la personne, vous ne pouvez pas retrouver dans la personne un désir naturel. Oui, mais il est thomiste, alors il dit désir naturel dans la personne. Ça revient au galop, hein, c'est très joli. Non, il y a en moi un désir naturel de la personne à atteindre la plénitude de sa perfection, à savoir la parfaite indépendance. Alors, est-ce que la plénitude de sa perfection, est-ce que c'est savoir la parfaite indépendance? De même, en tout être créé, il y a un ordre à laisser. Donc, dans tout être créé, il y a un ordre de laisser, à rejoindre l'essai divin. Ça, l'ontologie. Un ordre transcendantal. Ce qu'il appelle un ordre transcendantal, c'est ce que la scolastique a appelé, d'une façon générale, la relation transcendantale. C'est exactement ça. Et la relation transcendantale, vous avez ce que certains ont dit, Krempel, qui a fait une étude là-dessus très très poussée, il dit la relation transcendantale que les scolastiques, à partir de Jean de Saint-Thomas, on introduit dans le thomisme la relation transcendantale qui se distingue de la relation prédicamentale, vient de Don Scotus. Alors, c'est très intéressant de voir que la relation transcendantale, vous voyez, en deux mots, hein, il faut le savoir, c'est un terme scolastique que nous retrouvons dans Jean de Saint-Thomas. Il y a la relation prédicamentale. La relation prédicamentale, vous connaissez suffisamment, c'est l'âme, c'est d'être vers, tourné vers. Et le « âme » implique le « il ». Vous avez fait la théologie de la très sainte Trinité, vous savez bien qu'il y a le « âme » et le « il ». Le « il », c'est le fondement, et le « âme », c'est ce qu'il y a de formel dans la relation. L'amitié est une relation. L'amitié, c'est une personne tourner vers une autre personne, dont le fondement est la cognonia, la mise en commun. Qu'est-ce qu'on a mis en commun? Alors ça, c'est le fondement. Alors, il y a les amitiés des voyageurs, la mise en commun, c'est qu'on a partagé les petites provisions qu'on avait, devant, le pique-nique qu'on a emporté. La cognonia, c'est ça, ça ne dure pas très longtemps, le temps des provisions. Mais alors, ça dure ce temps-là, il y a une cognonia, et alors on est face à face. On est compagnons, n'est-ce pas ? Parce qu'on a vraiment mangé le même pain. Et on a vécu ensemble pendant un certain temps. C'est à partir de là qu'il faut le comprendre, du reste, la cognonia. Bon, si vous avez une amitié plus profonde au point de vue philosophique, c'est la mise en commun de la recherche de la vérité. Si vous avez une amitié au niveau affectif, c'est la mise en commun de ce que représentent nos intentions profondes de vie. Et là, le had qui termine. Donc, la relation prédicamentale, elle fait partie du prédicament. Et à côté, on mettra la relation transcendantale. Ce terme était inventé par un disciple de Don Scotus. Et puis, c'est introduit dans le thomisme. La relation transcendantale, c'est quoi? C'est l'intelligence ordonnée à son objet, c'est-à-dire à l'être, ou à l'acuité. Cet ordre de l'intelligence vis-à-vis de l'objet, on l'appelait relation transcendantale. Je crois qu'on devrait l'appeler un ordre transcendantal, et non pas une relation transcendantale. C'est-à-dire un ordre tel que l'intelligence ne peut se définir que grâce à son objet. L'intelligence par elle-même ne se définit pas. Elle se définit par rapport à son objet, puisque l'intelligence par elle-même est en puissance, et la puissance ne se définit pas par elle-même, elle ne se définit que par l'acte. Alors, qu'est-ce qui actue l'intelligence? C'est justement l'objet qui la spécifie. C'est par l'objet que l'intelligence est déterminée. Et par le fait même, l'intelligence est dans un ordre transcendantal, la scolastique dira dans une relation transcendantale. Et vous voyez que le père Geffray reprend ce point de vue-là pour la personne, en disant que la personne humaine et dans une perfection transcendantale. C'est quasi contradictoire. Hein? Parce qu'on dit des relations transcendantales pour montrer quelqu'un qui n'est achevé que par un autre. Quand on dit perfection transcendantale, perfection dit qu'on est achevé en soi. Transcendantale veut dire qu'on est ordonné à un autre. Donc c'est quasi contradictoire de dire perfection transcendantale. On doit dire relation transcendantale, très bien. Mais si je dis que la personne humaine est en relation transcendantale vis-à-vis de Dieu, on dit l'ontologie. La personne humaine n'est actuée que par Dieu. Alors il veut exprimer, on voit bien ce qu'il veut dire, il veut exprimer qu'il y a quelque chose de particulier dans la personne humaine qui implique ce dépassement. La personne humaine ne peut pas se déterminer par elle-même. Mais de même, en tout être créé, il y a un ordre, vous voyez, l'ordre transcendantal, de l'essai à rejoindre l'essai divin. Alors, il rejoint ça, c'est très délicat ça. Est-ce que vous pouvez dire que dans tout être créé, qu'il y a un ordre de l'essai à rejoindre l'essai divin? C'est l'essai participer par rapport à l'être. Et ça, c'est un jugement de sagesse. Alors ça se prend d'en haut et non pas d'en bas. Ce désir est vraiment une tendance ontologique. Ce désir est vraiment une tendance ontologique. Ce petit passage est très intéressant, hein, parce que je crois qu'il est plein de confusion. Donc il est intéressant, ce point de vue-là. C'est intéressant parce qu'on voit la manière dont quelqu'un qui a été formé par saint Thomas veut assimiler quelque chose qui est de l'ontologisme. Ça que je crois qu'il faut saisir, parce que c'est l'ontologisme qui a perverti le plus la philosophie occidentale. Et c'est l'ontologisme qui a donné naissance à l'athéisme. Alors c'est ça qui est important à voir. Or l'ontologisme, c'est la confusion entre le regard de sagesse et le point de vue métaphysique. C'est la confusion entre les deux. Alors c'est bien ça qu'on voit ici. Confusion entre... Vous voyez, en tout être créé, je ne parle de l'être créé qu'à partir du créateur. Donc c'est une tautologie de dire qu'en tout être créé, il y a un ordre de l'essai à rejoindre l'être divin. C'est défini par avant, puisqu'il est être créé. Alors il faudrait dire en tout être existant, il y a un ordre de l'essai à rejoindre, et ça je ne peux pas le dire. Je ne peux pas détecter dans la créature un ordre transcendantale vis-à-vis de Dieu. Parce qu'autrement, ce serait un imbécile qui dirait « mais Dieu n'existe pas ». Alors on aurait l'incipience. Je ne peux pas découvrir dans mon regard intellectuel la présence de Dieu dans l'essai de la créature. Dans l'essai des réalités qui sont présentes à moi. Pour le père Geffray, les trois grandes propriétés de la personne, ou ses conditions sine qua non. Il dit la même chose, hein, là encore. Les trois grandes propriétés de la personne, ou ses conditions sine qua non, sont la conscience, l'infinitude et la liberté. Voilà la trilogie. La conscience, l'infinitude et la liberté. La conscience dérive de la nature intellectuelle de la personne. C'est le nous qui est conscient. Donc c'est l'esprit. L'esprit se définit par la conscience. Descartes. Cette conscience de soi témoigne de l'identité au-delà de la variété des opérations. C'est ce que saint Augustin avait si bien senti lorsqu'il parlait de la mémoire de soi. On ne peut pas dire, bien que certains l'aient cru, que la conscience constitue la personne, car elle présuppose le suppôt métaphysique qui seul constitue la personne comme personne. Nous n'avons pas conscience de la conscience, mais de l'identité du moi sous ses divers états. La conscience relève justement de l'esprit, il est conscient. L'infinitude relève de la nature intellectuelle qui est infinie, non en son être, comme Dieu, mais intentionnellement. Elle est ouverte à tous les êtres, ce qui est juste. C'est du Feuerbach. Mais le cocktail, hein, il est bien fait. C'est Feuerbach qui dit ça. Je ne peux pas définir mon intelligence par l'infinitude. Vous comprenez bien pourquoi. Ou bien c'est du Descartes. Puisque pour Descartes, on a l'idée d'infini en soi, l'idée innée d'infini. Et donc l'intelligence se définit par l'infini. Parce qu'on a l'idée infinie d'infini. L'idée innée d'infini. Mais est-ce que nous avons une idée d'infini? Est-ce que nous pouvons penser l'infini? Si je pense l'infini, je pense Dieu. Impossible autrement. Donc, je pense quelque chose de limité, mais qui est ouvert à quelque chose de toujours nouveau. Je ne pense pas l'infini. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'une recherche intellectuelle n'est jamais terminée. Ça, vous pouvez le constater. Vous pouvez constater que la science est ouverte à un progrès, dont vous ne pouvez pas mettre la limite. Vous ne pouvez pas dire, ma science biologique actuellement s'arrête. Vous ne pouvez pas dire, ma philosophie première actuellement s'arrête. Non. Elle est ouverte à un progrès indéterminé. Mais ce n'est pas à cause de ça que vous dites que le nous est infinitude. Voyez. L'infinitude relève de la nature intellectuelle qui est infinie. Non en son être comme Dieu, mais intentionnellement. Elle est ouverte à tous les êtres. Et dire que l'intelligence est ouverte à tous les êtres, ça ne veut pas dire qu'elle est infinie. C'est la noblesse de l'esprit de pouvoir saisir l'infinitude de l'être. Je regrette. Je ne saisis pas l'infinitude de l'être. Ça, c'est du Suarez. Mais c'est un cocktail merveilleux. Parce que chaque fois, vous voyez les déviations. Ce serait intéressant de voir toutes les déviations qui sont impliquées dedans. Parce que ça, c'est Suarez qui dit que l'être est fini et infini. Et que c'est cela le point de départ de la métaphysique. C'est de saisir que l'être est fini et infini. Or, je peux dire que l'être est fini et infini uniquement dans un jugement de sagesse. En comprenant que Dieu est l'être absolument simple. Donc c'est la noblesse de l'esprit de pouvoir saisir l'infinitude de l'être. Nous touchons là une certaine transcendance. Enfin la liberté est comme une brèche en la nature humaine. Celle-ci n'est plus déterminée à de nous, elle est volontaire et libre. Ayant raison de tout, l'homme se donne les fins de son agir. Il se détermine. Oui. La volonté qui est justement dominatrice de ses propres déterminations. Notons bien que chacune de ces qualités se prend de la nature rationnelle de l'homme. On ne peut donc déterminer ce qu'est la personne dans ses propriétés qu'en faisant appel à sa nature. Mais alors, pourquoi faut-il souligner si fortement l'opposition entre les deux? Ce que je disais tout à l'heure, le désir naturel qui retrouve dans la personne. Donc il n'y a pas d'opposition entre les deux, il n'y a pas d'antinomie entre les deux. Il y a tout simplement le point de vue de l'esprit qui, de fait, est réalisé dans une nature. Alors que ce soit ça, le caractère propre de la personne humaine, oui, c'est vrai. C'est le caractère propre de la personne humaine. C'est la cohabitation d'une nature avec l'esprit. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas si commode que ça de vivre. Ça, c'est évident. Parce que la nature, elle est déterminée, et l'esprit comme tel est ouvert à des déterminations successives. Et l'esprit comme tel est capable de se déterminer dans sa finalité. Donc, il est dominant soumis. Ces qualités, dont deux relèvent de l'intelligence et la troisième de la volonté, liée à l'intelligence, appartiennent indubitablement à la nature spirituelle, comme nature spirituelle. Elles ne caractérisent donc pas la personne humaine, comme personne distincte de la nature. D'autre part, il ne s'agit pas de propriété de la nature spirituelle au sens fort, mais plutôt de certaines exigences des opérations spirituelles, conscience et liberté. et de leur fondement. Être sans les limites de la matière, du corps. Ça, c'est vrai. C'est le dépassement. L'esprit est au-delà du corps. C'est pourquoi cet effort, si intéressant qu'il soit, ne nous semble pas révéler la structure de la personne au niveau métaphysique, ni au niveau moral. Il reste au niveau du conditionnement. Je peux dire qu'évidemment, toute personne digne de ce nom implique, d'une certaine manière, ce que le père Geoffrey essaie de nous dire ici, conscience, infinitude et liberté. Mais infinitude, vous voyez comme c'est difficile à préciser. Mais c'est intéressant de relever ça, parce que ça, je crois qu'il y a là quelque chose qui essaie, c'est le désir du père Geoffrey, qui essaie de faire comment quelqu'un qui a une formation thomiste intègre les formes modernes. C'est toujours louable de faire ça, mais c'est toujours très dangereux, parce qu'on risque de faire un petit cocktail. Alors, ils commenceront peut-être la fois prochaine, il y a le problème de Heidegger, mais je n'ai pas tellement envie de continuer trop. Nous pourrons attaquer alors ensuite le problème proprement métaphysique de la personne après avoir fait toute cette topique. Comprendre comment se pose pour nous le problème de la personne.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,